Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast, troisième et dernier volet de la série « Comment réussir un lancement à 50 000 euros ». Dans les deux précédents épisodes, 46 et 47, je te partage le contexte de ce lancement, la plus grosse erreur à éviter pour réussir ton lancement, ainsi que mon organisation et toute ma stratégie pour réussir ce lancement express de YogiBiz Line sans les techniques de lancement habituelles mais avec de bons fondamentaux. Et dans cette dernière partie, on va justement passer à la partie résultats, les résultats en chiffres bien sûr, mais aussi les enseignements à retenir de ce lancement. J'en profite pour te rappeler que si tu veux apprendre à faire un lancement avec un rétro-planning, un plan marketing détaillé, des templates pour les réseaux sociaux et pour tes séquences mail ready-made, donc efficaces pour convertir tes abonnés en clients, tu peux retrouver tous ces ingrédients dans ma formation Yogi Challenge Pack avec en prime. Donc, toutes les informations pour organiser un challenge de lancement et le tout pour seulement 80 euros. Tu peux retrouver toutes les informations dans les notes de cet épisode. Si tu veux rejoindre cette formation, elle est disponible immédiatement en toute autonomie ou dans mon lien en bio sur mon compte Instagram @yogibizcoaching. Alors, passons maintenant aux résultats. Alors déjà, avant de lire ces résultats pour les comprendre, je vais revenir rapidement sur la façon dont je fixe mes objectifs. J'ai un petit truc à moi, c'est que je me fixe toujours un objectif good, ce que j'appelle l'objectif good, l'objectif minimum on pourrait dire, un objectif better, donc better que le good, et un objectif best. Donc là c'est mon objectif ambitieux. Ces objectifs, ils sont pas fixés au hasard évidemment. J'apprends aussi d'ailleurs dans le Yogi Challenge Pack à fixer ces objectifs de cette manière-là. Ils sont donc fixés en fonction de mon audience, enfin du nombre de mes abonnés, etc. Et puis en fonction aussi de moyenne, de taux de conversion qu'on connaît, que je connais justement par rapport à mon audience, à mes abonnés et aussi aux différentes actions que je mène. Il y a des taux de conversion moyens en fait dans le business en ligne ou dans chacun notre propre business qu'on peut observer au fil du temps. Et donc ça permet de fixer une projection, d'avoir de la visibilité sur ces résultats. Donc moi mon objectif good c'était 30 nouveaux profs de yoga dans YogiBiz Line, le better c'était 40 et mon meilleur objectif, le best, c'était 50. Donc j'avais de toute façon un seuil puisque en raison des coachings collectifs qu'il y a dans YogiBiz Line, je ne souhaitais pas dépasser un certain nombre de participants pour préserver la qualité de l'expérience de mes clients. Donc quoi qu'il en soit, c'était un nombre de places limité et 50, voilà, mon souhait était de ne pas aller au-delà. Alors, j'ai in fine fait 56 ventes concrètement pendant cette période de lancement. Donc 56 nouvelles personnes ont rejoint YogiBiz Line avec une courbe sans surprise qui suit les tendances de beaucoup de lancements, c'est-à-dire que les gens ne rejoignent pas l'offre de manière régulière et bien répartie en fait pendant toute la période du lancement. Et les chiffres que j'ai eus, les résultats que j'ai eus, c'est vraiment des résultats qui sont propres aux différentes tendances des lancements. Donc en gros, il y a eu 25% d'inscrits. Alors je dis 25% par rapport au résultat final hein, que je connais maintenant, donc c'est pour ça que je peux le transformer en pourcentage. 25% d'inscrits à l'ouverture, donc on va dire sur les deux premiers jours, mais en réalité, c'est un peu sur les 24 premières heures, puisque j'ai envoyé le premier mail d'ouverture de vente en fin de journée le jeudi. Donc là, c'est les ventes en fait du jeudi soir et du vendredi. Donc il faut savoir en fait que ces 25% de ventes, c'est essentiellement du coup la transformation des personnes qui s'étaient inscrites à ma waiting list, à ma liste d'attente. Et quelques personnes de ma liste d'abonnés, de ma liste email, mais c'est essentiellement effectivement des gens de ma liste d'attente. Il y a eu 25% le dimanche, donc avant l'expiration du bonus. Donc je rappelle que j'avais mis un bonus en fait effectivement qui expirait, on va dire, donc en gros 72 heures après le lancement officiel, le fameux dimanche soir. Et puis j'ai eu 25% le dernier jour, donc juste avant que les portes de YogiBizLine ne ferment. Et le reste, les 25% restants finalement, a été dilué en fait sur les 8 jours restants, donc le milieu en fait hein, du lancement, la semaine du milieu, à raison hein, du coup du 1 à 2 ventes par jour et même une journée sans vente, et c'est complètement ok puisque c'est vraiment encore une fois la courbe des tendances des lancements qu'on observe dans 90% des cas. Alors effectivement hein, je connaissais pas cette répartition pendant le lancement ni avant mon lancement. Mais si tu as bien suivi le rétro-planning de ce lancement, le dimanche, donc c'était le dimanche 18 avril, à l'expiration du bonus que j'avais mis en place, j'avais justement mis ça en place pour me donner une première tendance. Et donc si on transforme les pourcentages en nombre de ventes, en réalité, le dimanche, j'avais donc réalisé déjà près de 30 ventes, ok ? Donc, j'avais atteint déjà mon objectif minimum, mon objectif good. Et ça voulait dire aussi, du coup, qu'il me restait que 20 places disponibles pour atteindre mon objectif better. Et en même temps, je rappelle donc ce nombre de places limitées pour préserver l'expérience client dans mon programme. Donc, statistiquement, puisque si on se base sur les courbes de tendance des lancements, je savais que j'allais faire à peu près le même nombre de ventes le dernier jour que le premier jour. Et donc, c'est ce qui m'a permis, finalement, cet atterrissage, ce forecast, en fait, on appelle ça dans le jargon, l'atterrissage de mes ventes. C'est ce qui m'a permis de prendre la décision, justement, de ne pas faire de masterclass. Donc, vous vous souvenez, j'avais effectivement cette masterclass un petit peu en option, qui était pas prête, mais en tout cas, j'avais les grandes lignes, je pouvais la dégainer. Et en réalité, je n'en ai pas eu besoin et j'ai même finalement pas dû mettre le pied sur le frein, mais un petit peu quand même, je vais y revenir plus tard. Donc en termes de chiffre d'affaires maintenant, si j'extrapole à la fois les paiements en une fois et les paiements en quatre fois, j'arrive effectivement à un chiffre d'affaires de vente de plus de 50 000 euros pour ce lancement. Alors, petit spoiler, si t'as les yeux qui brillent, hein, ce chiffre d'affaires, c'est évidemment pas ma rémunération, c'est évidemment pas ce que j'ai dans mes poches aujourd'hui. D'abord, il y a toutes les charges qu'on paye en tant qu'auto-entrepreneur, et puis il y a tout ce qui ne et tout ce qui ne rentre pas finalement dans ma poche, même si moi, en termes de coûts directs, il y a que finalement la mission que j'ai déléguée, plus mes outils habituels, mais la mission que j'ai déléguée, c'est un coût qui est vraiment associé à ce lancement. Je compte pas le mentoring puisque c'est un coaching qui va au-delà du lancement. Hein. C'est un mentoring que j'ai sur plusieurs mois. Je me fais accompagner sur plusieurs mois. Donc même si j'ai investi pour ce lancement, c'est pas un coût voilà qui n'impacte uniquement ce lancement. Donc en fait, j'ai pas eu d'autres frais spécifiques en dehors de mes outils habituels, des commissions sur les paiements quand on utilise des outils comme Stripe, etc. Il y a effectivement des petites commissions, mais voilà, il y a pas eu j'ai pas justement une enveloppe de publicité ou d'autres délégations plus onéreuses. Donc c'est vrai quand même que ça reste quand même du chiffre d'affaires qui est pas trop amputé de coûts. Après, ce qu'il faut prendre en compte quand même, c'est que je vends un programme qui dure plusieurs mois. Donc, ces 50 000 euros, c'est aussi la rémunération de X mois de travail à venir. Dans mon cas, c'est 3 mois. Et comme j'avais en plus un mois où je devais pas être là, on va dire que allez, c'est une rémunération, enfin un chiffre d'affaires qui va se transformer pour une partie en rémunération et qui est à lisser en réalité sur 4 mois en ce qui me concerne, enfin pour ceux sur la partie sur laquelle je vais me payer. Donc l'avantage de vendre un programme sur lancement, c'est vrai que ça permet de rentrer une trésorerie d'un coup et d'avoir de la visibilité pour les mois à venir, et ça peut permettre justement d'ajuster sur ces autres prestations ou d'ajuster ses revenus en fonction de ses objectifs financiers, les objectifs financiers de chacun qui sont pas forcément les mêmes d'ailleurs. Et dans un lancement, mais n'oublions pas que dans un lancement plus classique, dans le sens plus dans les règles de l'art, avec peut-être les stratégies habituelles, bah, il faudrait aussi intégrer tout le travail qui a été fait en amont pour préparer ce lancement. Donc le temps aussi que ça prend, et ça peut donc sous-entendre pendant ce temps-là de mettre en stand-by d'autres rentrées d'argent en parallèle, comme par exemple des missions one-to-one, des coachings one-to-one. J'aurais pu me dire, bah ok, par exemple sur le mois d'avril ou même février, mars, avril, je le dédie à préparer l'ensemble de mon lancement, si j'avais fait des masterclass, si j'avais mis en place de la pub, si j'avais démarché beaucoup plus par exemple pour me faire inviter sur des lives, etc., si j'avais mis en place un programme d'affiliation et ainsi de suite. Et donc, peut-être que j'aurais dû mettre en stand-by mes coachings one-to-one sur cette période. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Ça veut dire que j'aurais pas eu ces rentrées d'argent à ce moment-là non plus. Donc, finalement, les recettes de mon lancement doivent aussi servir à financer ces mois de préparation en amont. Donc, attention quand, effectivement, on voit le résultat de chiffre d'affaires d'une vente. Bah oui, mais ça permet de payer quoi? Depuis combien de temps? Jusqu'à quand? Et qu'est-ce qui ne vient pas dans mes poches? Donc, il peut vraiment aussi y avoir un manque à gagner, à compenser du coup. Et puis, alors là, j'arrive au plus croustillant de l'histoire et à mes déboires de jeune entrepreneuse, hein, parce que j'ai quand même, moi, passé vraiment la majeure partie de ma vie en CDI, et je suis Yogibiz Coaching a été créé en septembre 2020 seulement, donc je suis une jeune entrepreneuse. Et ce dernier lancement m'a appris quelque chose, et c'est ce que j'avais envie vraiment de t'expliquer aujourd'hui. Donc, il se trouve que moi, j'ai plutôt un mindset d'abondance. Je pense que, enfin, ça se ressent probablement, mais donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt géré mon lancement en fait en nombre de profs de yoga qui allaient me rejoindre, qui allaient rejoindre mon programme, en nombre de places aussi, parce que voilà, pour préserver justement l'expérience client, je savais qu'il fallait pas que je dépasse un certain seuil. En tout cas, moi, je m'étais fixé cette limite. Mais à aucun moment j'ai converti en fait ce nombre de personnes, ce nombre de places limitées, etc. Je l'ai converti en chiffre d'affaires. Tout simplement parce que moi, par la force des choses, le chiffre d'affaires, c'est en fait le résultat indirect. Et que si je mets les bonnes actions en place, si je touche le bon nombre de personnes, ben, j'ai pas à m'en préoccuper tant que je suis focus sur mes ventes, et ça c'est un petit peu mon plaisir de commercial. Et donc j'étais tellement concentrée en fait sur la quantité et les personnes, enfin la quantité de personnes qui rejoindraient mon programme, la quantité de profs de yoga que j'allais pouvoir aider, le groupe, la communauté que j'allais créer avec ces nouvelles personnes et le nombre de participants à mon programme, et ben que j'ai pas du tout pensé chiffre d'affaires à aucun moment. Et du coup, au moment de faire les comptes, stupeur et tremblement, pour les connaisseurs d'Amélie Nothomb, stupeur et tremblement, et ben qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pendant ce lancement, j'ai tranquillement explosé le plafond de la TVA en micro-entreprise. Et je l'ai explosé du coup en plein lancement. Et la cerise sur le sundae, c'est que je suis même seulement à quelques centaines d'euros du plafond de CA tout court en fait de la micro-entreprise à fin avril, donc c'est du 1er janvier en fait à fin avril, j'arrive en fait in extremis à la limite du plafond de l'auto-entreprise avec ce lancement. Et alors là, même si ça peut paraître un problème de riche, hein, mais c'est pas du tout dans ce sens que je partage cette expérience, c'est juste que déjà imaginez la douche froide sur le coup quand j'ai Lucie qui s'occupe de ma gestion administrative qui me dit « Mais Cécile, là on a un gros problème parce que t'as explosé le plafond de la TVA et donc il va falloir payer la TVA sur... non pas les ventes à partir du moment où on dépasse le seuil, mais en fait on doit payer la TVA sur l'ensemble des ventes du mois pendant lequel on dépasse le seuil, donc moi en réalité sur toutes les ventes que j'ai fait pendant mon lancement, plus éventuellement les coachings individuels, etc. qui sont rentrés chez moi début avril. Donc évidemment, j'ai pas fait la chasse aux clients qui peuvent récupérer la TVA, j'ai pas demandé quels étaient les profs qui pouvaient récupérer la TVA, j'aurais franchement pas trouvé ça classe, donc c'est pour moi, c'est cadeau, je l'ai payé, mais franchement, c'est une vraie anecdote de lancement, c'est une vraie anecdote de débutante, je pense que ça peut arriver à n'importe qui, donc je pense qu'il faut... aussi regarder où on en est dans son chiffre d'affaires avant faire un lancement, parce que voilà, il peut y avoir des précautions à prendre ou des choses à anticiper. Donc en tout cas, ça c'est un petit peu la partie croustillante, mais comme quoi derrière un lancement réussi, il peut se cacher plein de choses. Ça peut être tant au niveau du mindset, ça peut être tant, comme on l'a vu, un peu de la panique sur la promesse de son programme. Ça peut être des complications de trésorerie, de charges ou autre. Donc voilà, là en l'occurrence, moi ça a été vraiment des tribulations comptables et je trouve que c'est hyper important de partager ça et de montrer justement cette face cachée de l'iceberg qu'on voit pas dans la gestion d'une entreprise, notre responsabilité et puis toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Donc même si, encore une fois, c'est vrai que ça peut paraître un problème de riche, mais c'est hyper enrichissant en tout cas comme expérience et je voulais vraiment partager ça avec vous. Alors, ce que je retiens de ce lancement, qu'est-ce que j'ai appris et quelles sont les questions que je me pose maintenant pour la suite? Alors déjà, en termes de mindset. Déjà, la première chose, c'est que vraiment, je me suis... rendu encore plus compte qu'à un moment donné, il fallait accepter la réalité de ce qu'est d'être une, de ce que c'est d'être une maman entrepreneur et d'avoir des priorités du coup familiales, des contretemps aussi à adapter. Hein, donc on a vu ici, pour moi, ça a été l'expérience avec la Covid et le confinement de dernière minute des écoles. Et c'est ok en fait. Et évidemment que l'entrepreneuse ou la prof de yoga qui peut-être est célibataire, qui du coup a moins de contraintes de temps, qui peut travailler tous les jours, 7 jours sur 7, toute la journée, se déplacer n'importe où, n'importe quoi, enfin bref, c'est pas la peine de se comparer en fait, parce que voilà, et être une maman entrepreneur, c'est ok, on peut faire de belles choses tout en s'organisant autrement. Alors c'est aussi bien évidemment un lancement comme ça, c'est aussi savoir dire non à beaucoup d'autres choses à côté. Alors ça veut pas dire penser qu'on fait bien parce que on est hyper débordé par notre actualité et par le lancement qu'on fait, mais ça veut dire que néanmoins c'est quand même une période où on va mettre tout notre focus, donc effectivement il y a beaucoup de choses à penser, on doit être disponible pour notre communauté, on doit vérifier plein de choses, donc oui c'est beaucoup de travail sur la période du lancement, oui on y est 7 jours sur 7, pour moi c'est vrai que ça a été des semaines à près de 80-90 heures, avec un peu de travail de nuit mon fils dormait, avec des ajustements en journée, mais évidemment que c'est beaucoup de travail et que forcément sur une période de lancement comme ça, il faut accepter de devoir faire des compromis et de savoir dire non à d'autres choses, c'est clair. Ensuite, moi, j'ai connu quand même la frustration d'avoir eu à mettre le pied sur le frein. Mais c'est positif parce qu'en réalité, ça soulève la question de la suite de Yogi Bizline. Et ce à quoi je veux en venir, c'est que quand on lance une offre, en fait, c'est pour ça que ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est pour ça qu'on ne peut pas penser à tout et que c'est pas la peine de tout anticiper parce que de toute façon, ça sera jamais la version finale, ce qu'on va lancer au début ou même la version d'après. Et en fait, il faut justement se lancer pour ensuite faire évoluer son produit, pour ensuite voilà se rendre compte de certaines choses sur notre chemin. Et on peut pas tout anticiper, on sait pas comment ça va se passer. Donc encore une fois, finalement, ça montre bien que le test and learn, c'est la meilleure des choses à faire et qu'il faut pas vouloir sortir quelque chose de parfait. Qu'il faut aussi se laisser la possibilité voilà, d'ajuster au fil de l'eau et de faire évoluer son produit. Ensuite, la bonne idée en termes de mindset aussi, et pour, je pense, rester focus comme ça et mettre vraiment toute son énergie dans le lancement, c'est d'anticiper un temps de repos après le lancement, c'est-à-dire de savoir qu'une fois que le lancement sera fini, on va avoir quelques jours pour relâcher la soupape et pour se reposer. Un lancement, c'est très très énergivore, mais quand on est dedans, en fait, on s'en rend pas compte parce qu'il y a de l'euphorie, parce qu'il y a des endorphines, parce que éventuellement on a aussi des petites problématiques à régler et on fait en sorte de faire que les choses avancent et fonctionnent. Et donc je pense que la bonne idée quand on planifie son rétro-planning, etc., c'est aussi vraiment d'intégrer, au même titre que quand on planifie sa semaine, c'est important d'avoir des moments pour soi un petit peu tous les jours ou des moments un petit peu plus importants dans la semaine. Et quand on planifie son lancement, mon conseil, c'est aussi de planifier tout de suite comment on va célébrer ce lancement et du temps de repos. Et enfin, ce que j'ai pu observer aussi, et je pense qu'on peut pas empêcher pendant un lancement, c'est cette petite boule au ventre, ce petit trac, moi j'appelle ça du trac, qui nous saisit quand les ventes s'envolent. D'un seul coup, on se dit « Oh là là, mais ça marche, est-ce que je vais être à la hauteur ?» Et donc, attention juste à ce moment-là, parce que on peut tomber dans de l'auto-sabotage, du coup, parce qu'on a peur. Alors justement, on va nous-mêmes mettre le pied sur le frein. Donc moi, j'ai mis le pied sur le frein, mais pour d'autres raisons, par rapport à la quantité de places disponibles. Mais il faut prévenir et anticiper ce phénomène. Si votre lancement fonctionne, il y a forcément la peur du succès qui va intervenir et puis cette espèce de petit trac. Alors le mieux, c'est justement de se fier au plan et c'est ce qui fait que ça va nous éviter justement de freiner, de ralentir ou de s'auto-saboter. On reste fidèle au plan, on avance. Et du coup, petit à petit, en fait, hein, c'est un peu impermanent, hein, ce trac, c'est-à-dire ça vient, ça repart, donc c'est OK pour continuer le lancement. Donc voilà un petit peu, moi en tout cas, ce que j'ai retenu en termes de mindset, les différentes émotions que j'ai pu traverser ou les conseils que je peux donner après coup. Après, ce qui a fonctionné de façon très pratico-pratique, premièrement, c'est le choix de mes bonus et notamment donc par exemple pour le paiement en une fois, j'avais mis donc une heure de coaching individuel, une heure de coaching en one-one et j'ai eu plus de 75% de paiement en une fois, ce qui est quand même énorme. Forcément, c'est mieux en termes de trésorerie, bien évidemment. Et donc, c'est le choix des bonus qui peut avoir aussi un impact sur le paiement, la formule de paiement que les clients vont choisir. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment quelque chose à bien réfléchir. Ensuite, deuxième chose qui a marché pour moi de façon très pratico-pratique, bien évidemment que ce sont les appels découvertes et je dirais aussi les messages privés en notes vocales parce que forcément j'ai pu rassurer s'il y avait besoin les personnes qui se posaient des questions. J'ai pu aussi répondre franchement à est-ce que c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. Et c'est pas toujours fait pour soi. Enfin, j'ai eu des cas où c'était peut-être pas adapté ou c'était plutôt des coachings personnalisés que j'ai pas pris parce que j'avais plus de place, mais malgré tout, je sais que la personne avec laquelle j'ai discuté, c'est plutôt un coaching personnalisé qui est recommandé. Donc dans ce cas-là, voilà, ça permet quand même d'expliquer aussi pourquoi. Forcément, ça crée de la proximité, ça crée du lien, ça crée de la confiance, ça permet de donner des conseils personnalisés en plus de la page de vente avant d'investir. Et je peux comprendre que voilà, ce soit un vrai investissement, une formation en ligne. Donc voilà, moi je fais pas partie de la team qui dit qu'on n'a pas besoin d'appel découverte pour vendre, c'est vrai, mais je trouve pas que ce soit honteux de faire des appels découvertes. Ça veut pas dire que j'ai besoin de convaincre sur mon produit, ça veut dire qu'au contraire, les gens, eux, ils ont envie de m'avoir, de me poser leurs questions, et j'adore discuter avec ma communauté, j'adore parler avec mes clients, j'adore échanger avec les profs de yoga. Alors oui, ça demande un peu plus de temps, ça demande un peu plus d'énergie. Mais bon, moi je fais aussi ce métier-là pour le lien que j'ai avec mes clients, et donc c'est complètement ok pour moi de faire des appels découvertes. Et donc pour ceux qui seraient moins à l'aise avec l'exercice, le DM, le message en vocal, je trouve, permet voilà, c'est pas autant abouti qu'un appel découverte, mais ça a des effets vraiment positifs. Et puis, dernière chose pratico-pratique, bah, les petits détails pour animer le lancement, comme par exemple le template d'accueil pour les personnes qui rejoignent le programme et qui peuvent partager sur les réseaux à leur communauté qu'elles ont rejoint le programme, qu'elles vont créer quelque chose. Donc ça, c'est plutôt positif, ça crée de l'engouement. Ça crée de l'animation aussi, post-it tous les jours en fait. J'écrivais, alors soit moi, soit mon fils, les noms des profs de yoga, des personnes qui rejoignaient le programme. D'abord parce que moi, j'aime bien connaître et reconnaître les participants à mon programme. Donc ça commence par là. Et j'affiche un petit peu les post-it, je fais un suivi des compteurs, des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et puis ça, c'est plutôt sympa pour l'émulation, ça donne envie. Et aussi le concours, du coup, à défaut d'avoir fait des lives, à défaut d'avoir fait de la pub, à défaut d'avoir fait une masterclass ou un challenge, et ben le concours, ça aide énormément en termes de visibilité, parce que forcément il y a des nouvelles personnes qui, grâce au concours, apprennent à nous découvrir, en fait, apprennent à nous connaître ou nous découvrent. Donc voilà, de manière pratico-pratique, le choix des bonus, l'appel découverte et les DM en note vocale, et puis tout ce qui est template d'accueil, les petits post-it, le concours, tout ça, ça contribue bien évidemment au succès, et ça a contribué au succès de mon lancement. Maintenant, en termes d'enseignement, j'ai fait une petite liste de ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on a vu au fil de ces 3 épisodes. Je crois que j'ai 9 ou 10 points. Donc, première chose, c'est que le lancement, finalement, est tout aussi important que la formation, le programme, que votre offre en elle-même. À produit égal, en fait, un lancement peut conditionner les ventes, les résultats, le succès de votre offre. Donc, si j'ai 2 profs de yoga, vous avez la même offre ou le même programme, alors évidemment, ça sera jamais identique puisqu'il y a votre personnalité, il y a vos spécificités, etc. Mais dans l'idée, vous êtes 2 profs de yoga avec 2 memberships, selon le lancement que vous faites et donc les ingrédients que vous allez mettre dans votre lancement, comment vous allez gérer tout ça, eh bien, il y a l'une ou l'un d'entre vous qui peut réussir et pas l'autre. Donc, le lancement est tout aussi important que la formation en elle-même. Ne négligez pas ça. Deuxième point, si on ne sait pas faire quelque chose ou qu'on rencontre une difficulté, il ne faut pas hésiter à se faire aider. On ne peut pas espérer des résultats différents en faisant la même chose. Et encore une fois, je répète, même si ça paraît bête, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, investir pour se faire accompagner, ça peut être soit sur une étape de son lancement, ça peut être avant, ça peut être pour se conditionner en termes de mindset, ça peut être un programme complet ou une formation complète pour apprendre à faire un lancement de A à Z, peu importe. Mais si je sais pas, si je sens que je doute, si j'ai une boule au ventre, parce qu'il y a un truc qui passe pas, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Troisième point, C'est vrai que plus on fait des lancements, plus on pourrait dire on a l'habitude entre guillemets, mais attention aussi parce que sur un premier lancement, bah c'est l'inconnu, on y va, on se lance, il y a un petit peu l'engouement de l'innocence, pas la chance du débutant, mais en tout cas, on n'a pas de non plus de point de repère. Donc du coup, c'est une expérience et on la vit pleinement. Par contre, la deuxième fois, bah du coup, il y a déjà de se dire bah j'ai envie de faire mieux que la première. Et qu'est-ce qui se passe si je fais moins bien ? Donc déjà en termes de mindset, on se met des bâtons dans les roues. On est aussi moins naïf entre guillemets. On rentre en compétition un petit peu avec nous-mêmes. Bref, il peut y avoir un vrai impact de mindset. Ça peut réveiller le syndrome de l'imposteur. Donc, il faut aussi être préparé à ça. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut pas forcément faire les choses exactement de la même façon. C'est pour ça aussi que faire un bilan de ce qu'on fait, c'est nécessaire. Parce que comme ça, on va corriger le tir, garder certaines choses, en changer d'autres, en apporter de nouvelles, etc. Et donc, c'est ce qui va nous permettre justement que chaque lancement se suit. On va capitaliser peut-être sur ce qui a fonctionné, sur nos forces, mais aussi on va améliorer d'autres choses ou se faire accompagner ou autre pour éviter justement de tomber dans ce cercle mindset qui pourrait nous jouer des tours. Quatrième point, et je reviens un peu à la même chose, mais capitaliser sur ses forces plutôt que sur ce qu'il faut faire, que sur ce qu'on sait pas faire ou sur les dernières tendances à la mode. Je prends l'exemple des Reels, tout le monde fait des Reels. Alors très honnêtement, moi je commence à trouver ça ridicule, les trucs je monte du droit à droite, à gauche, etc. Donc au début on a tous commencé comme ça et c'est ok. Aujourd'hui il y a des Reels qui sont de plus en plus chiadés entre guillemets, il faut bien le dire. Et voilà. Et en fait, bon après c'est un vrai mode de communication, ça fonctionne oui et non, enfin ça dépend des Reels, mais en tout cas c'est pas parce que c'est la dernière tendance à la mode et c'est pas parce qu'il y en a qui le font qu'on est obligé de le faire. Moi perso, j'aime bien faire un petit Reels de temps en temps, mais je suis pas une grande fan. Ça m'empêche pas d'ailleurs d'avoir un lead magnet sur apprendre à faire des Reels parce que voilà... chacun utilise ce qu'il veut en termes de stratégie, de contenu, etc. Mais on peut aussi faire un lancement réussi sans Reels, avec des recettes beaucoup plus simples, beaucoup plus traditionnelles, avec des basiques, des fondamentaux. Et la preuve, c'est que ça marche aussi. Cinquième point, être aligné avec son produit, son offre et sa promesse. Donc ça, c'est vraiment tout le sujet du premier épisode sur le lancement, donc l'épisode 46. On a vu pourquoi, hein, bah ça permet tout de suite d'avoir confiance, du coup d'être à l'aise dans sa posture commerciale, d'être à l'aise pour vendre et évidemment par répercussion d'attirer l'abondance beaucoup plus facilement. Donc vraiment être aligné avec sa promesse. Sixième point, avoir un plan, même si on est en flux tendu. Donc on a vu que moi j'avais plutôt géré les choses au jour le jour, mais être organisé et savoir où on va, ça permet justement de ne pas s'épuiser, de ne pas se dégoûter. Donc c'est vraiment la clé, c'est vraiment d'avoir un rétro-planning. Et ensuite, une fois qu'on sait tout ce qu'on a à faire exactement, eh ben, si on le fait par contre moins par batching, mais plus un petit peu dans l'énergie du jour, en suivant un peu le flow, c'est ok à partir du moment où je sais quelle est ma direction, où je veux aller et ce que j'ai à faire. Donc être organisé et avoir un rétro-planning. Septième point, et ça c'est hyper important d'en prendre conscience, si vous devez peut-être retenir une chose, c'est que ce qui m'a permis de réussir ce lancement un petit peu dans la précipitation, un petit peu express et un petit peu sans les techniques de lancement habituelles, c'est parce que c'est la régularité, en fait, ma régularité de toute l'année. Parce que toute l'année, je construis et je travaille de manière, avec une fréquence régulière à la création de ce qu'on appelle une audience chaude. Donc, c'est-à-dire un public, en fait, qui me connaît déjà. Et du coup, j'ai pu faire des ventes sur ces gens qui déjà me connaissent, qui me font confiance, qui connaissent ma manière de travailler, qui connaissent mes contenus, parce que j'ai suffisamment de lignes magnettes pour voir comment je propose les choses, parce que j'ai ces épisodes de podcast où je donne déjà beaucoup de conseils. Et donc, je n'ai pas eu besoin, quelque part, d'aller chercher de nouvelles personnes, de recruter, comme on dit en jargon technique, de nouveaux prospects. Ça a été possible et réussi parce que tous les mois précédents, je suis régulière dans ma présence en ligne, dans mon contenu, dans mes partages, dans la valeur que j'apporte gratuitement. Donc même si cette fois-ci, je n'ai pas vraiment en termes de rétro-planning eu le temps de réchauffer mon audience, même si je n'ai pas été chercher du trafic froid avec de la pub par exemple, j'ai une communauté qui est suffisamment qualifiée, fidèle et en confiance pour travailler avec moi et acheter mes offres. Donc si jamais tu te demandes encore à quoi ça sert d'être présente sur Instagram, de publier régulièrement, de créer une vidéo YouTube chaque semaine ou chaque 15 jours, d'envoyer une newsletter hebdomadaire, eh bien tu as ta réponse, c'est la régularité et la générosité aussi dans tes contenus qui payent le jour où tu proposes une offre à ton audience. Donc vraiment, la régularité et tout le travail de contenu qu'on fait, bah, ça sert aussi à ça dans ces moments-là où du coup on lance une offre de manière un peu express sur uniquement donc notre audience chaude, bah, ça permet d'avoir justement des résultats et ça, vraiment, c'est le truc que je voudrais que tu retiennes si tu fais encore partie des gens qui disent « mais à quoi ça sert tout ça ?» Ben voilà, tu as ta réponse et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de communiquer sur les réseaux et d'avoir une stratégie de communication bien en place. Huitième point, faire des choix et accepter qu'on ne peut pas tout faire. Ça aussi, c'est un enseignement que je retire de ce lancement. Et voilà, se poser la question, si on est short in time ou voilà, est-ce que c'est indispensable? Est-ce que ça va réellement conditionner mes résultats? Donc c'est le cas par exemple des Reels dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, pour moi, j'ai pas trouvé ça que c'était indispensable. Et la masterclass par exemple, eh bien effectivement, c'était plus judicieux de ma part de la garder pour la suite et... Eh ben, je me dis que j'ai le plaisir d'avoir encore plein de choses à expérimenter pour les prochains lancements de YogiBizLine et ça, c'est super. Et enfin, dernier enseignement, ça revient un petit peu à ce que je disais quand on sait pas faire ou qu'on rencontre une difficulté, mais là, c'est peut-être plus en termes de temps et de sérénité, eh bien, c'est de déléguer. Et même si on n'a pas un gros budget pour tout déléguer, en même temps, c'est pas l'idée parce qu'il faut quand même aussi... Enfin, c'est pas mal d'apprendre à faire pour pouvoir mieux déléguer ensuite. Mais dans mon cas, par exemple, j'ai vraiment juste délégué une petite tâche qui n'a pas été si coûteuse que ça quand on regarde sur l'enveloppe globale. Et pourtant, moi, ça m'a fait gagner presque une journée de travail. C'est quelque chose, voilà, où que j'aurais certainement fait beaucoup moins vite que Coralie qui a fait ça pour moi. Et donc, par répercussion, j'ai aussi gagné en sérénité. Donc, on n'a pas forcément les moyens de faire tout faire, mais c'est OK de déléguer une petite tâche si en contrepartie, ça nous fait gagner sur d'autres plans. Donc voilà pour tous les enseignements que j'ai tirés de ce lancement et un petit peu que je peux transformer aujourd'hui en conseils pour éventuellement ton prochain lancement. Alors, mon bilan pour la suite, bah, c'est clair que j'ai encore envie de faire plein de choses, voilà, tout ce que j'ai pas pu faire cette fois-ci, bah, j'espère bien pouvoir le faire pour le prochain lancement, donc un vrai événement de lancement, mettre en place mon programme d'affiliation, créer un lead magnet spécifique, commencer à faire de la publicité, faire plus de live, plus d'interventions live sur d'autres comptes, etc. Et puis, évidemment, ça soulève aussi beaucoup de questions, cette expérience, puisque pour l'instant la prochaine ouverture des portes de YogiBizLine donc est prévue pour début 2022, mais c'est vrai que j'aimerais ne plus avoir cette limite de participants. tout en gardant une bonne expérience client. Donc ça, c'est une des questions principales que je me pose aujourd'hui. Comment faire ? Parce que ce que j'aime en plus aujourd'hui, c'est animer les coachings collectifs, m'occuper d'un groupe de personnes en même temps, suivre les projets de mes élèves. Mais du coup, est-ce que c'est viable que j'ai encore cette approche personnalisée, ce suivi, que je connaisse un petit peu presque chaque projet, enfin que je finisse par connaître presque chaque projet et chaque prof de yoga, chaque élève. Est-ce que c'est viable pour le développement de Yogi Bizline pour la suite? Et donc, quelle décision je peux prendre par rapport à ça? Ça, ce sont les questions que je me pose. Est-ce que le programme restera accessible du coup sur lancement ou est-ce qu'il sera peut-être plutôt en evergreen, c'est-à-dire disponible toute l'année? Et donc, si c'est le cas, comment j'assure malgré tout le fait de soutenir le passage à l'action et le parcours de mes élèves? Parce que contrairement à des lancements où du coup on a un programme pendant 3 mois, on a une cohorte de gens qu'on suit. Si le programme est accessible tout au long de l'année, bah évidemment c'est plus difficile de suivre sur un temps défini le passage à l'action de nos élèves et leur parcours. Donc voilà, tout ça c'est des questions. Est-ce que je continue à donner accès au coaching plusieurs fois, enfin sur plusieurs cohortes, ou est-ce que je crée derrière un membership back-end, c'est-à-dire pour les gens qui veulent continuer à être coachés en collectif derrière, bah, de rejoindre un membership dédié. Est-ce que je rends cette formation éligible au CPF ou pas? Ce qui sous-entend, quoi qu'il en soit, si c'est le cas, que du coup, évidemment que le prix ne sera non plus le même. Donc, intéressant ou pas, je suis pas sûre. Est-ce qu'il est temps que je développe un écosystème d'offres autour de ce programme signature? Est-ce qu'il y a des besoins avant? Est-ce qu'il y a des besoins après? Donc ça aussi, ça fait partie des questions que je me pose. Bref, ce sont mes réflexions pour les mois à venir dans l'optique de toujours mieux accompagner les profs de yoga et aussi dans l'optique de développer YogiBiz. Donc voilà, en plus je parlais de frustration tout à l'heure, mais c'est vrai que moi en termes de mindset, j'adore vendre et je me sens toute vide depuis que les portes de Yogi Bizline ont fermé, parce que ben voilà, j'ai plus cette posture commerciale, j'ai plus un petit peu ce discours de vente, enfin je sais pas comment dire, parce que moi j'aime ça, pour moi voilà, je sais que mon programme il aide les profs, donc je suis ok avec ça. Et alors évidemment il y a le Yogi Challenge Pack hein, qui est encore disponible, mais c'est pas pareil que mon programme signature évidemment. Donc voilà, je pense que j'adore les lancements, j'adore être en lancement, mais du coup voilà, j'ai pas forcément des lancements toute l'année, tous les mois, tous les semaines, donc affaire à suivre. Et je dirais que c'est ça qui est bien en business en fait, c'est de se laisser le temps, de pas tout faire tout de suite, que tout soit pas parfait, que voilà, de laisser le temps de voir comment ça va évoluer et de se laisser le temps de tester des choses et d'avancer aussi un petit peu avec son audience, avec ce que notre communauté veut, et faire évoluer notre produit. Donc voilà, finalement c'est ce que je trouve de génial dans le fait d'être entrepreneur et de pouvoir suivre ses idées, de créer, de faire évoluer ce qu'on a déjà. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode t'aura donné envie de faire ou de refaire un lancement en profitant de mon expérience. Pour ma part, j'ai vraiment adoré te partager les coulisses de mon lancement. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Si tu veux supporter YogiBiz Podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast. Et c'est vraiment simple à faire. Tu vas sur l'application Apple Podcast, tu cherches YogiBiz Podcast. Et une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, tu cliques sur « S'abonner ». Et puis, tu descends tout en bas jusqu'à la section « Évaluation et avis ». Ici, tu cliques sur 5 étoiles et tu peux me laisser ton témoignage. Dis-moi par exemple pourquoi tu écoutes YogiBiz Podcast et comment le podcast a eu un impact dans ton business. Un énorme merci à toi d'avoir pris le temps. À la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.